Radio Campus Lille, 9h.
La Villa Cavrois à Croix a fêté ses 10 ans d'ouverture au public. Une occasion de m'y rendre pour vous faire découvrir ce lieu témoignant de l'époque révolue du textile florissant aux environs de Roubaix. Voilà, aujourd'hui jour de fête à la Villa Cavrois à Croix. Bonjour.
Bonjour, je suis Karine Guimbard, l'administratrice de la Villa. Et nous fêtons aujourd'hui les 10 ans d'ouverture du monument. Nous avons invité différents artistes à faire la fête avec nous et avec nos nombreux visiteurs.
Dans ce lieu qui est très symbolique d'une époque, peut-être qu'on pourrait raconter un peu son histoire.
Alors cette architecture a été édifiée par Robert Malestevens, l'architecte, en 1932 pour le couple Cavrois des industriels du textile. Et ce riche couple des Hauts-de-France, en fait, a passé commande de cette architecture emblématique à Robert Malestevens s'il voulait vraiment s'inscrire dans la modernité de l'époque.
Alors c'est vrai que cette modernité, elle a traversé le temps. Aujourd'hui, elle a été rénovée d'une certaine manière. Donc il y a derrière beaucoup d'appui des monuments historiques, j'imagine.
Alors cette villa, depuis plus de 10 ans, donc 10 ans d'ouverture, mais à peu près plus d'une dizaine d'années avant de travaux. Donc ce sont de nombreux corps de métier, l'architecte en chef, les entreprises qui ont aidé à la remise en état de cet édifice dans le cadre de sa livraison 1932.
Donc cet édifice a servi de lieu d'habitation, de bureau aussi. Qu'est-ce qu'on pouvait faire dans ce grand, on va dire c'est presque un immeuble, hein ?
C'est une architecture domestique pour une famille, mais Monsieur Cavrois y recevait aussi ses nombreux clients.
Voilà, donc un lieu aussi symbolique d'une époque où l'industrie était florissante.
Oui, tout à fait. C'est vraiment, on était première moitié du XXe siècle. Effectivement, l'industrie textile du nord des Hauts-de-France aujourd'hui, toute la région était, on avait ce textile était extrêmement florissant. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont passé commande pour cette grande villa.
Donc la Villa Cavrois, à un moment donné, était un peu délaissée, sinon abandonnée. Depuis, ça s'est, on va dire, remis en forme pour que le public participe aussi à ce monument patrimonial.
Oui, l'idée, c'est vraiment de faire partager au plus grand nombre cette passion pour l'architecture et puis cette vie moderne que proposait l'architecte à la famille Cavrois. Effectivement, la villa a été habitée par la famille jusqu'en 1986 et ensuite, elle a été vendue et puis elle s'est délabrée, elle a été laissée ouverte par des promoteurs qui l'avaient acquise et qui espéraient lotir et faire des programmes. Quand ils ont vu que le bâtiment était classé et qu'il ne pourrait pas, ils ont laissé ouvert le bâtiment qui a été squatté. Elle a été extrêmement délabrée quand l'État a pu l'acquérir ensuite et lancer son programme de restauration.
J'imagine que ça a dû coûter assez cher, hein, et que donc l'intérêt maintenant, c'est que le public se l'approprie.
Oui, alors ce qui nous fait extrêmement plaisir aujourd'hui, 10 ans après son ouverture, c'est que les gens de la région viennent et reviennent et présentent à leurs amis cette architecture comme étant la leur, enfin en tout cas faisant partie de leur mémoire, de leur patrimoine. Donc ça, c'est une grande réussite pour nous. Et puis on essaye de l'ouvrir à tous les publics, à l'international, aux publics qui ont peut-être moins l'habitude de visiter aussi ces monuments.
Est-ce que cet immeuble-là a des correspondances ailleurs en France, sinon dans le monde ?
Alors, il y a de très belles architectures iconiques du XXe siècle, mais ici, on est sur plus de 2400 mètres carrés de plancher. On avait vraiment une appellation de château moderne. Donc, cette surface est extrêmement importante et la qualité très exigeante de la restauration en font quand même une œuvre d'exception, tant en France qu'à l'international.
Donc, il y a cet immeuble et pas loin de là, il y a un grand jardin qui est classé aussi. On peut peut-être en dire un mot.
Alors, vous parlez peut-être du jardin Malet Stevens. Alors, c'est un jardin qui a été créé en l'honneur de Malet Stevens par les services de la ville de Croix, de manière à avoir un espace vert très aménagé à quelques encablures de la villa.
Donc, on peut dire que ça fait un ensemble où il est intéressant de venir, même se déplacer spécialement.
Alors oui, on peut tout à fait venir à la villa, profiter de son parc, et on a de nombreux jardins. Vous parliez du jardin Malet Stevens, mais aussi le parc Barbieux, qui est à quelques encablures et qui est magnifique également.
Donc cette animation, comme aujourd'hui, pour vous, ce sera tous les 10 ans ou vous envisagez chaque année un gros événement à la villa Cavrois ?
Alors, pour l'instant, on ne s'est pas projeté, mais c'est vrai, quand on voit l'appétence, le plaisir, le sourire, les yeux qui pétillent aujourd'hui, on a quand même très envie de ne pas attendre 10 ans pour renouveler.
Voilà, donc vous devez être assez fier d'œuvrer à la perpétuation de cet endroit et d'en faire un lieu accueillant.
Oui, bah, je partage avec toute mon équipe qui s'est investie. Et c'est vrai que quand on voit le sourire, les gens qui s'intéressent, qui nous posent des questions, qui partagent, on est vraiment ravis.
La villa Cavrois a été abandonnée durant des années et les travaux de remise en état des lieux, entrepris par l'État au travers des monuments nationaux, ont été conséquents.
Bonjour, je suis Charline Guibert, responsable du pôle de la communication digitale au Centre des Monuments Nationaux.
Donc ce lieu, Villa Cavrois, fait partie du patrimoine, je ne vais pas dire mondial de l'humanité, quoique, mais des monuments historiques.
Tout à fait. En effet, il a rejoint le réseau de nos 110 monuments nationaux que nous gérons au sein du réseau, au Centre des Monuments Nationaux. Et en effet, il fait partie de la petite dizaine de villas remarquables que nous valorisons au quotidien. Et c'est un des joyaux des Hauts-de-France. Et ici, on est... Moi, en plus, étant sensible aux images, c'est un lieu très, très médiagénique où on peut sans cesse faire des photos, le redécouvrir, capter la lumière. Donc moi, sur ma partie communication digitale, ici, c'est un régal des yeux et aussi des images qu'on glane. Et en tout cas, comme monument accompagné, il est aussi très agréable par ses multiples images qu'on peut valoriser régulièrement. Et le nombre de sujets pour faire la promotion de ce monument est incroyable. Il y en a plein. Il y a l'entrée des objets, du mobilier, de l'extérieur, des points de vue, de comment on pouvait vivre au début du XXe siècle. C'était quoi être moderniste? Mais aussi, il y a toute cette question, et le cadre des 10 ans permet de questionner ça, c'est comment on restaure, comment on préserve, comment, par tout un champ de recherche, on essaie de restituer, reconstituer, ou essayer de retrouver quelque chose d'originel, même si tout ne sera jamais comme avant. Donc ce monument questionne aussi beaucoup ça, et les 10 ans permettent aussi, nous, sur nos réseaux sociaux, les sites internet, de raconter cette histoire, puisqu'aujourd'hui, tout paraît magnifique, mais tout a été aussi... on part de rien ou de quelque chose d'extrêmement abîmé et délabré, et voilà. Mais aujourd'hui, on s'émerveille. C'est une journée pour s'émerveiller.
La région de France est très riche en musées. Ce lieu, je ne sais pas si on peut le considérer comme un musée, quoique.
Il peut être considéré comme un musée parce que je trouve qu'il raconte beaucoup de choses aussi sur une œuvre d'art totale à la fin des années 20, au début des années 30. Parce qu'à la fois, aujourd'hui, par la collection et le fait de remeubler, on le remeuble, ce ne sont pas les meubles originaux, mais quelque part, c'est un ensemble. Donc on peut presque le considérer comme le musée d'une époque ou le musée d'une œuvre. Peut-être même un manifeste de Malet Stevens où il a eu une sorte en 4 ans ou 3 ans, presque 4 ans, de possibilité d'aller très très loin pour tout concevoir, quoi. Du moindre détail, de la visserie aux ouvertures, au choix des sols, des choses plus du design. Donc c'est vrai que c'est presque un musée de cette époque et de cet architecte incroyable.
Alors c'est vrai que dans ce secteur qui fut habité par des riches, on m'a dit qu'il y en avait encore, qui se cachaient. Il y a de beaux endroits comme le Grand Parc Barbieux. On a aussi le Parc Malet Stevens qui est juste à côté. Ça fait un ensemble cohérent.
Alors oui, ensemble cohérent. Alors moi, je ne connais pas, peut-être encore moins que vous quand même, tous ces lieux à les fréquenter quotidiennement. Mais en effet, il y a un ensemble cohérent. Moi-même, quand je suis ici, je pense à d'autres architectures de la métropole. Par exemple, j'ai beaucoup fréquenté le LAM. C'est loin et on est très loin, mais il y a quand même ce rapport aussi à une brique, à des formes qu'on peut retrouver. Donc voilà, dans ce que je connais de cette région, de cette zone du Nord, il y a plein de choses en écho qu'on arrive à relier, même à des époques très très diverses, 100 ans après. Donc je trouve qu'il y a un vocabulaire, oui, de formes d'architecture du XXe siècle dans cette région qui est incroyable aussi, quoi. C'est vrai qu'il y a une architecture du XXe et début XXIe assez incroyable dans cette métropole.
Est-ce que vous ressentez l'effet tourisme de ces lieux magiques ?
Bah, on voit qu'il y a quand même des visiteurs parfois qui avaient mis sur leur liste de venir à la Villa Cavrois un jour, et ça fait comme partie d'un voyage, une opportunité, ou à un moment ils sont dans les Hauts-de-France parce qu'ils vivent parfois loin, près de Lille. En fait, dans la liste, il y avait venir à la Villa Cavrois parce qu'ils ont vu beaucoup d'images, parce que parfois ils sont sensibles à l'architecture et ça fait partie de leur wish list, comme on dit aujourd'hui, de visites à faire, et un jour ils finissent par venir. Tout à l'heure, dans la journée, on a parlé à des gens qui, parfois, il y en a un qui venait de Lyon, ça faisait 15 ans, 20 ans, il disait qu'il devait venir, et il a saisi l'opportunité de venir travailler dans le Nord pour une réunion et de rester, et il savait qu'il allait venir la voir. Donc, c'est un lieu il y a beaucoup d'images qui circulent, c'est pas que la communication digitale, c'est aussi les médias, la presse. Et je pense qu'à un moment, ça inscrit quelque chose comme un endroit qu'on veut absolument voir en vrai, parce que déjà, par les photos, il nous marque, il nous intrigue, il nous séduit, quoi. Donc je pense qu'il y a des visiteurs, et puis il y en a, ils reviennent, ils sont venus une fois, ils veulent revenir, et voilà. Donc il y a aussi des gens qui viennent d'assez loin pour le voir, et même des étrangers, pas mal d'étrangers d'ailleurs, des Belges, des Allemands, de plus en plus apparemment d'Espagnols et d'Italiens, si on en croit les chiffres. Donc voilà, ils donnent envie et... Il suscite de l'intérêt, mais même pour des gens qui viennent de plus loin et qui ne vont pas que visiter le Vieux-Lille ou Notre-Dame de Paris s'ils passent à Paris. Donc il y a aussi un peu ce champ-là qui intrigue et intéresse, quoi.
Le domaine de la Villa Cavrois à Croix, près de Roubaix, est donc aujourd'hui ouvert au public et vaut la peine d'être visité. Une belle façon d'entrer dans notre patrimoine régional et national. C'était un reportage de René Lavergne de Radio Campus Lille.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du Nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Radio Campus 106,6.
Une ville en ruine. Reste encore des mines entre deux châteaux de cartes. On a fait de l'huile avec l'olivier et dévoré la colombe. Reste le ciel qui surplombe les miettes d'un repas truqué. Y aura toujours un coin à prisonnier de trop, un drapeau mis en cendres, des idéaux mégalos. Y aura toujours une âme à vendre, des pourparlers muets, une raison ou une autre de condamner la paix, de condamner la paix. S'éclate dans un monologue. Quelques mots en vogue entre deux hommes en cravate. On n'a plus le secret pour changer l'eau en vin. Elle n'en a que la couleur, celle du mépris, de la peur qui font que tous les mots sont vains. Un prisonnier de trop, un drapeau mis en cendres, des idéaux mégalos. Y aura toujours une âme à vendre, des pourparlers muets, une raison ou une autre de condamner la paix, de condamner la paix. le soir convoite le feu qui s'éteint. Veille d'un lendemain qu'on espère plus diplomate. Un goût de vinaigre gâche le repas. Quelques gandhis se défendent, concrétisant les légendes d'un présent plus beau que l'au-delà. Il y aura toujours un rire à rendre, un je t'aime en écho, un rêve à entreprendre. Elle t'aura ton idéal. Il y aura toujours une main à prendre. Soleil en plein hiver, une raison ou une autre d'anéantir la guerre.
Yeah. 2023 et 2024 en Hauts-de-France ont été des années où l'intensité des précipitations ont généré de longues et étendues inondations. Le premier semestre de l'année 2025 est, lui, marqué par une sécheresse. Alors, à quoi joue le ciel et comment gérer l'excès ou le manque de pluie? Question que je posais à l'occasion d'un débat public à Patrick Marlière, météorologue, et Jean-Jacques Hérin, président de l'association douaisienne Adopta, association pour le développement opérationnel et la promotion des techniques alternatives en matière d'eau pluviale. Alors, première question à Patrick Marlière, météorologue, pleut-il aujourd'hui plus mal qu'hier?
Tous les phénomènes extrêmes que l'on observe depuis maintenant plusieurs années, voire plusieurs décennies, ce sont des phénomènes météo qui sont normaux, qui n'ont rien d'exceptionnel. D'avoir une dépression qui fait remonter de l'air chaud du bassin méditerranéen qui envahit toute la France, on a déjà connu ça, on a déjà connu des températures élevées, on a déjà connu des phénomènes de fortes précipitations, mais là, tout est amplifié. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, je ne dis pas le nombre d'années où depuis je fais la prévision météo, mais si j'avais annoncé il y a 50 ans les quantités de pluie qu'il tombe actuellement, on m'aurait traité de fou, on m'aurait dit mais t'as rien à faire dans ce métier quoi. Annoncer 20, 30 ou 40 mm à l'époque sous des averses, c'était normal, c'était même important. Aujourd'hui, on annonce 100, 200 litres au mètre carré en l'espace de quelques heures. Tous les phénomènes extrêmes qui sont passés, par exemple, avec malheureusement, qui étaient tragiques, comme les inondations en Espagne, 800 litres en 36 heures, l'équivalent d'un an de pluie en Paris, et ça provoque malheureusement 200 victimes.
Aujourd'hui, Vivaldi compose quoi, les 4 saisons ou les 2 saisons ?
C'est pas d'aujourd'hui qu'on dit il n'y a plus de saisons. Hein, c'est pas d'aujourd'hui qu'on entend ça, les météorologues. Mais pour autant, même nous, les météorologues, on a du mal un peu à bien qualifier où on en est dans la saison. Ici, vous l'avez évoqué rapidement, l'année 2023 a connu les inondations. L'année 2024 a été une des années les plus pluvieuses comme on n'avait pas vu depuis longtemps. Le mois de janvier 2025, il a plu sur la France et la région quasiment 2 fois plus que la normale. Donc on se disait, ben, et voilà, on va être tranquille, les nappes phréatiques, elles sont saturées, on va être peinard. Et puis, depuis février, bah, déficit pluviométrique tous les mois. Et là, effectivement, on est encore en déficit pluviométrique. Et quand il tombe de l'eau, comme hier, hein, on a tous vu les fortes averses d'hier, bah, malheureusement, c'est des quantités très importantes dans des espaces-temps très courts. Ça ne peut pas s'infiltrer dans les sols, ça ruisselle et malheureusement parfois provoque des inondations. Et je ne vous rappelle pas les problèmes que ça peut poser aussi au monde agricole.
La météo, ce qu'on connaît là, c'est l'expression de l'évolution du climat.
Alors, le dérèglement climatique, que ce soit en France, en Europe de l'Ouest ou un peu partout dans le monde, il est en place aussi depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, que ce soit par la sécheresse, les incendies qu'on a au Canada, les inondations qu'on a connues en Espagne ou en Italie, celles que l'on connaît avec les orages, vous avez tous vu hein, sur les réseaux sociaux la taille des grêlons sous les orages de cette dernière semaine. On n'a jamais vu ça, des grêlons de 5 à 8 cm, pareil quoi. Je veux dire, ça, c'est dans ma carrière de météo, j'en ai vu rarement. Et là, aujourd'hui, ben, quand ça tombe sur une exploitation agricole, je ne vous raconte pas les dégâts que ça peut provoquer.
Dernière question, parce qu'après, on va regarder un petit peu ce que l'on peut faire pour imaginer mieux gérer l'eau. C'est une bonne idée de faire pleuvoir quand la nature ne veut pas pleuvoir.
Alors, le forçage des nuages et de faire précipiter ces fameux nuages là où il ne pleut pas souvent, c'est une catastrophe à chaque fois. Il y a eu des tas d'essais dans le monde entier, que ce soit dans le nord ou le sud de l'Afrique. On a essayé parfois de faire précipiter des couches nuageuses. À chaque fois, ben, le résultat, par exemple, en Afrique, on faisait précipiter une couche de nuages qui était à 3 km d'altitude. Ça marche, hein, c'est très facile. Il suffit d'envoyer des particules supplémentaires dans l'atmosphère. Le mécanisme se met en marche et ça précipite en dessous. Sauf que, comme il fait très très chaud en dessous, ben, la couche de nuages qui était à 3 km, on l'a descendue à 1500 mètres, et ça reformait des nuages, il n'y a pas de pluie qui touche le sol. Donc tous ces phénomènes, toutes les tentatives qui ont été faites pour faire précipiter là où il ne précipite pas assez, ben, malheureusement c'est voué à la catastrophe.
On oublie parfois également que le relief, et même si chez nous il n'est pas extraordinaire ce relief, mais l'aménagement également, des répercussions sur ce qui se passe dans le ciel. Et vous nous aviez expliqué que, par exemple, l'Arlésie, il y a une forme de microclimat qui est propre à l'Arlésie.
Chaque partie de la région, et que ce soit dans le Nord-Pas-de-Calais ou un peu partout en France, il y a ces fameux microclimats qui existent et qui sont là, alors parfois dus au relief, parfois dus à la présence de forêts. Et c'est le cas dans l'Avesnois, lorsqu'on arrive à la forêt de Mormal. C'est pas par hasard que c'est à côté de cette forêt de Mormal qu'on a eu les tornades les plus violentes. Il y a eu la tornade d'Aumont en 2008, mais une tornade beaucoup plus importante à Pomereuil en 1967, au mois de juin. C'est la tornade la plus violente jamais vue en France. Donc les phénomènes extrêmes existent tout le temps, mais effectivement, il n'y a pas besoin de beaucoup de relief. Les pluies qui arrivent, sur la région, on a l'impression que dans le Nord-Pas-de-Calais, il pleut la même chose partout. Ben non, la moyenne, effectivement, c'est 700 litres à mètre carré sur le centre de la région. Quand on voit dans le Boulonnais, le Domarois, le fait que tout ce qui arrive par la Manche est soulevé un peu par ces collines, ça donne des précipitations beaucoup plus importantes. S'il tombe 700 litres chez nous, il en tombe 1400.
C'est-à-dire que les solutions, elles sont véritablement étudiées très localement, oui, au regard de toutes ces spécificités qui créent ces phénomènes météorologiques ou climatiques.
Oui, et demain, on s'intéresse on a un projet là sur les 3 ans à venir de justement quel sera l'impact de ces fortes précipitations des phénomènes extrêmes sur tous les enjeux économiques et surtout par exemple les transports, la SNCF. On a vu que il y a pas longtemps à Toulouse de fortes pluies à un moment donné ça a ravagé une ligne SNCF et provoqué des dégâts importants et c'est un peu partout. Je veux dire à Nice et sur la Côte d'Azur récemment à Saint-Tropez, on a eu des quantités de pluie mais énormes comme on n'avait jamais eu. Et les modèles météo, même s'ils envisagent que ces phénomènes peuvent se produire, ils sont toujours un peu à la ramasse. C'est comme ça. On annonce 150 litres, ce qui permet d'alerter les gens. Mais pour autant, quand on fait le bilan, il en tombe 300. Quoi. Donc c'est le double. Donc là, on a vraiment, nous aussi, un problème à ce niveau-là.
Alors, comment aménager ou réaménager l'environnement ? Pour que les précipitations permettent la recharge des nappes phréatiques afin de parer aux périodes de sécheresse, tout en évitant les inondations. Jean-Jacques Hérin, président de l'association ADOPTA, association pour le développement opérationnel et la promotion des techniques alternatives en matière d'eau pluviale.
Auparavant, quand dans les métiers techniques où on doit concevoir des ouvrages pour gérer la ville, de quelque type d'ouvrage qu'il s'agisse, on partait du principe, dans un pays tempéré comme ici, en gros, pour vous faire très simple, on tablait sur 60 mm de pluviométrie par mois. 700 mm sur l'année, à peu près, voilà. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'en est plus là. On n'est plus sur un climat tempéré aujourd'hui. Et lié au dérèglement climatique, les événements entre Saint-Omer, Calais, Boulogne et Dunkerque, c'est lié au réchauffement de la Manche qui a connu les mêmes problématiques que la Méditerranée. Et du coup, on a un phénomène de pluie Cévenol qui est arrivé sur notre région. Voilà. On en arrive là aujourd'hui. Et ça, c'est, voilà, on ne peut plus nier véritablement ce changement climatique. Voilà. Et ce changement de rythme du rythme des pluies. Globalement, sur une année, il ne pleut pas plus, pas moins. Il y a des variations annuelles, bien évidemment. Mais qui se souvient de l'année plus pluvieuse que 2024? C'est 2007 ou 2008. C'est pas il y a si longtemps. Hein. Il a plu plus que 2024 à Douai. Alors dire que 2024 est une année absolument exceptionnelle, c'est faux. Sauf que ce qui est exceptionnel, c'est qu'effectivement en janvier, il est tombé entre, selon les endroits dans le Douaisis, entre 120 et 180 et 160 mm. C'est-à-dire entre deux fois, voire trois fois ce qui tombe normalement en un mois de janvier. C'est ça le changement climatique. Et depuis janvier, il ne pleut plus. Est-ce que vous savez que le département du Nord et le département du Pas-de-Calais sont en vigilance sécheresse? Qui aurait pu prédire ça? Et comme dit Patrick, il y a 50 ans, on aurait annoncé des choses comme ça, on se serait dit, vous êtes des fous. Eh bien non. C'est ça notre quotidien aujourd'hui. Sauf que notre quotidien d'aujourd'hui, eh bien, il n'est pas préparé à ce qu'on vit aujourd'hui. Dans le changement climatique, il y a une problématique d'adaptation, il y a une atténuation qu'il faut faire, il faut tout faire pour essayer de réduire ce changement climatique. Sauf que le changement climatique, c'est, C'est un système qui est en route, et même si on arrêtait l'ensemble de nos émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, il y a une inertie telle que, de toute façon, il faut s'adapter à ce que, au changement qui nous arrive. Voilà. Ça, c'est indubitable. Or, nos infrastructures, elles n'évoluent pas à la vitesse du changement climatique aujourd'hui. Bien sûr qu'il faut gérer tout ce qu'on est capable de gérer, et qu'à chaque fois qu'il pleut, et qu'il pleut pas excessivement, il faut faire en sorte qu'on retrouve le cycle naturel de l'eau. Et le cycle naturel de l'eau, c'est quoi ? Eh bien, l'eau, la pluie, elle rentre dans le sol, elle génère des nappes phréatiques dans lesquelles on produit de l'eau potable, et puis il y a des fois où ça ruisselle. Voilà. Le problème, c'est que notre ruissellement, il est de plus en plus fort parce que, eh bien, on a modifié complètement les conditions naturelles de nos espaces, que ce soit en ville ou que ce soit à la campagne. Hein. Voilà. C'est le même combat. Donc en ville, on peut très bien construire la ville sans imperméabiliser. On peut minéraliser du sol pour qu'on soit au sec quand il pleut, etc., mais permettre à l'eau de continuer de rentrer dans le sol. Voilà. Et on sait faire des choses.
Ces techniques, elles ont quand même leurs limites. On ne sera jamais à l'abri d'un événement exceptionnel.
Exemple, Saint-Omer et tout ce qui s'est passé, effectivement. Il est tombé en 2 mois et demi 950 mm de pluviométrie sur ce secteur-là. Voilà. Parce que la mer plus chaude, 1 degré de température, c'est 7% d'humidité de plus dans l'air. Voilà. Et quand l'air est saturé en eau, qu'est-ce qui se passe ? Et notamment devant le Boulonnais, ben, on n'a pas de montagne énorme, mais le Boulonnais, c'est quand même 200-220 mètres d'altitude. Les nuages montent, et quand les nuages montent, qu'est-ce qui se passe ? Ça précipite. Voilà. Voilà. Et donc la seule chose qu'on puisse faire, c'est de s'adapter à cela. Il faut revenir quand même à des choses très simples qu'on a oublié un petit peu d'enseigner aussi dans nos écoles. C'est la notion de l'immineur et l'imageur d'un cours d'eau. Un cours d'eau, quand il ne sait pas tout envoyer, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il s'élargit et il prend un l'imageur. Ah, c'est normal, c'est la nature, et ça fait des millions d'années que c'est comme ça.
Quel aménagement du territoire face à l'évolution climatique et aux événements météorologiques provoqués par cette évolution ? Un sujet de Hervé Dujardin pour Radio Scarpe Sensé.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate, where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is. Here the garrison sleeps in the citadel with a ghost and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. And high on the wind, the Highland runs making a roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I can do with you. That's what it is. That's what it is now. What it is. That's what it is now.
candlesticks till writing songs in a wee wee house on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. It's what it is. Le raga pour le frotta, il y a le riz pour les petits, et puis Carla, oh, pas pour moi. Il y a le jazz pour tricoter, la techno pour s'agiter, la rumba pour faire la fête, et la variette, pourquoi au fait. Et puis il y a non fonctionnel, ce petit air de monsieur Ravel. Trop commun, disent les bobos, ça s'appelle le boléro. Le boléro. C'est vrai qu'il y en a eu des Vanessa, des Elsa, des Sofia. Il y en aura des Carlos, des Eros et des Philos. Mais bien peu resteront éternels, comme déjà les monsieur Ravel. On oubliera, ouais, les placebos, mais jamais le boléro. Le boléro. We'll be right back.
La LPO Hauts-de-France, la Ligue pour la protection des oiseaux, a pour objectif d'agir ou de favoriser les actions en faveur de la nature et de la biodiversité. Jean-Paul Lamonnier, bénévole, nous présente les différentes actions de la LPO Hauts-de-France et le rôle important des bénévoles.
Ligue protectrice des oiseaux, donc qui a changé un petit peu ces dernières années parce qu'elle s'occupe maintenant également de la biodiversité. Donc elle protège et elle favorise la biodiversité. La biodiversité, pourquoi ? Ben parce que, et en particulier les zones humides, parce que des moments où vous avez une zone humide, vous avez une biodiversité qui est très importante, des insectes, des libellules, etc., etc., qui fait que ben, les oiseaux, ils mangent ça. Et donc, par conséquent, ils sont là. Et d'ailleurs, maintenant, les agriculteurs ont compris et mettent des haies, justement, pour avoir des mésanges, etc., qui mangent les insectes, et en particulier donc des rapaces qui peuvent venir également manger les mulots.
Donc ça, c'est grâce aux actions que vous menez, à cette sensibilisation que vous faites autour de la protection des oiseaux, avec également, on en parle aujourd'hui surtout, le réseau SOS Faune Sauvage. Donc c'est un réseau qui a été créé il y a déjà quelques années.
Oui.
Quel est le but d'abord de cette opération ?
Alors, c'est bien la faune sauvage qui est en détresse. Vous trouvez un animal sauvage en détresse, ben vous pouvez téléphoner au 07 72 22 51 40 et vous aurez quelqu'un qui vous dira ce qu'il faut faire, qui vous conseillera. Ou, si jamais il n'y a personne, parce que le week-end, je peux envoyer éventuellement, c'est un peu compliqué, mais on vous le met de toute façon, à qui il faut intervenir. Mais vous pouvez également utiliser www.lpo.fr et chercher CyberPiaf. CyberPiaf, c'est un assistant virtuel, maintenant on y va. Et donc, il va vous conseiller également de la même façon et même éventuellement vous permettre de reconnaître les oiseaux.
Donc si par exemple je retrouve un oiseau en détresse sur la route, eh bien, je contacte directement le réseau SOS Faune Sauvage et il y a des vétérinaires qui sont là aussi.
Voilà, il faut conduire, le vétérinaire ne va pas se déplacer, hein, il faut le conduire chez le vétérinaire. On a un réseau, on va vous le donner, le vétérinaire le plus proche de chez vous. Et suite à ça, le vétérinaire fait son diagnostic, il dit c'est à euthanasier ou c'est à soigner. Si c'est à soigner, on fait appel à d'autres bénévoles qui vont être transportés au centre de soins le plus proche.
On peut aussi évoquer rapidement ce que vous faites tous les jeudis, les rondes du jeudi, ça sert à quoi ?
Alors, la ronde du jeudi, c'est essentiellement sur les oiseaux, d'accord ? Et donc, c'est les écouter, les voir, les étudier. Alors, pour la ronde du jeudi complet, ça c'est toute la journée, avec un petit pique-nique là où on peut. Mais on fait des sorties également le jeudi et même le dimanche, selon un calendrier de la LPO, bien évidemment, de 9h à midi, pour Monsieur Tout-le-Monde, qui est vraiment motivé également, avec des enfants. Le tout, c'est de nous dire combien vous allez être, de nous dire on vient. Et en ce cas-là, nous, on va s'adapter, on va mettre le nombre de guides adaptés au groupe. Si les gens qui sont plus férus en ornithologie, on va mettre un guide plus scientifique là-dessus, ou également parfois des enfants. Et donc, en ce cas-là, on mettra quelqu'un qui est plus proche des enfants. Et on prendra tout ce qui est à faire avec des photos et tout ça, si jamais on ne voit pas tout à fait l'oiseau.
Et puis, on peut déjà évoquer cet événement qui aura lieu donc, les 20 et 21 septembre prochains, puisque ce sont les journées européennes du patrimoine. Et vous avez vous-même d'ailleurs eu l'idée de cet événement au château d'Olin.
Voilà. Au château d'Olin, j'ai contacté la châtelaine qui était vraiment ravie qu'on fasse un petit peu d'animation en plus de son château qui est magnifique. Et donc, elle nous a réservé la cour pour pouvoir mettre notre stand, où là, on montre comment on construit des nids d'hirondelles. Et puis également, sur le parcours, sur les douves, on met des longues vues et Monsieur Tout-le-Monde peut voir les oiseaux qui se trouvent, les poules d'eau, etc. Mais en grand, là.
Et puis dans un magnifique endroit, quoi.
Magnifique endroit, si le temps y est, c'est merveilleux.
On peut, pour terminer, rappeler que la LPO cherche toute l'année des bénévoles. Vous en faites partie depuis combien de temps ?
Oh, maintenant, ça doit faire une quinzaine d'années, oui.
Et alors, on peut donner votre exemple. Vous étiez médecin généraliste, vous êtes retraité. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu bénévole à la LPO ?
Alors, je suis venu bénévole à la LPO parce que j'ai fait auparavant, beaucoup de vélos, mais à haute dose, hein, faire des Paris-Brest-Paris, des choses comme ça. Et en VTT, je passais dans les sous-bois à fond la caisse. J'entendais des oiseaux, mais j'étais pas, savais pas du tout. Et puis après, ben, j'étais beaucoup moins performant. Je passais de plus en plus de temps dans les bois et je reconnaissais toujours rien. Donc j'ai décidé d'étudier. Et puis de rentrer à LPO en me disant bah, « est-ce que c'est ça qui me plaît ?» Mais bah, oui, je suis tombé sur des gens qui m'ont donné le goût et le goût également d'apprendre. Quoi.
Et vous avez carrément fait des études en ornithologie ?
Alors, j'ai fait, c'est disons qu'il y a une dizaine d'années, avec le groupe ornithologique du Nord qui l'organisait, le GON, à Lille, et maintenant la LPO du côté de Arc, du côté de Saint-Omer, donc par conséquent, crée une école également, et c'est la deuxième année qu'on procède.
Donc quand on devient bénévole, on peut soit, par exemple, comme vous, animer des rondes du jeudi, donc des sorties pour observer les oiseaux, on peut aussi contribuer à d'autres événements, et puis participer au recensement d'oiseaux comme les hirondelles, par exemple.
Les hirondelles, les martinets, il y a les rapaces diurnes, il y a plein d'études qui sont faites au sein de la LPO, qui nous demande de faire des recensements dans des carrés bien précis, etc. Mais dans la ronde du jeudi, nous, même sur toute la journée, il y a des gens qui ont fait comme moi des études d'ornithologie, mais il y en a d'autres qui ne veulent pas faire d'études, mais qui vont apprendre au fil du temps, et ils rachètent des livres, ils apprennent par eux-mêmes. Après, c'est à nous à les guider en disant « non, attends, et ceci, cela ». Mais voilà.
Et on le précise, vous cherchez aussi des éco-vigilants, c'est quoi ?
Alors, les éco-vigilants, on aimerait bien qu'il y ait une personne par commune, vous savez que le Pas-de-Calais c'est 893, donc il nous en faut pas mal, qui puisse recenser les nids d'hirondelles, les nids martinets, ça c'est un peu plus difficile, les nids d'hirondelles, on va dire, et puis de nous dire... S'il faut faire une conférence, s'il faut faire quelque chose au sein de la mairie, il y a qu'eux qui peuvent le dire et nous. Et ils vont nous aider pour les différents recensements plus tard.
Pour devenir bénévole et en savoir plus sur les différentes actions de la LPO Hauts-de-France, rendez-vous sur le site lpo.fr. Ce sujet a été réalisé par Banquise FM. Interview Louise Petit, réalisation Jean-Baptiste Cotteret.
Une émission proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
You are listening to Radio Campus on 106.6 FM.
Gratte la peinture, tu verras le ciel. Gratte la peinture et tu verras le vide de la coquille qui te garde à l'abri. N'importe la couleur et le nombre de couches, au rasoir, au couteau, à l'ongle, à la fourche, décolle cet écran, ce miroir sans teint. Brise tes chaînes, fais sauter tes liens.
T'es plus belle que ce pseudo-dessin, ce torchon à la gouache, cette croûte au fusain. Et tu te crois boule de papier mâché, mais tu transpires l'amour, l'humour et la beauté. Rate la peinture et tu verras le sol. Rate la peinture et tu verras le ciel. Rate la peinture et tu verras l'horizon, du soleil autour, la lumière au fond. Rate la peinture et tu verras le sol. Rate la peinture et tu verras le ciel. Rate la peinture et tu verras le vide aride qui brille l'intérieur de ton vide. Rate la peinture et tu verras le sol. Rate la peinture et tu verras le ciel. Rate la peinture et tu verras l'horizon, du soleil autour, la lumière au fond. Rate la peinture et tu verras le sol. Rate la peinture et tu verras le ciel. Rate la peinture et tu verras le vide aride qui brille l'intérieur de ton vide.
Je prends ma valise et je m'envole à Venise. Venise ou Paris, finalement c'est pareil. Vernis ou pourri, l'intérieur est le même. On se cogne à cinq murs, on s'enterre vivant. On se blesse, on se murmure, on se bat. Jaunit le désert, ternit de nos vies, de douleur, de rancœur, de bonheur, de tant pis. Nos lanternes humides en ont plein la vessie, nos lumières taries éclairent moins qu'une bougie.
Alors on se débat, on s'agite, on s'en veut, on crie. Alors on s'ébat, on s'envie, on s'en veut, on prie. On épaissit les strass de notre carapace. Ou alors on se renie et on se fond dans la masse. Si à ma chanson tu n'as rien compris, rassure-toi c'est normal, ma chanson c'est ta vie. Un amas de mots, de silence, de musique. Une bouteille amère, une goutte d'eau dans ton verre. Gratte la peinture et tu verras le sol. Gratte la peinture et tu verras le ciel. Gratte la peinture et tu verras l'horizon, du soleil autour, la lumière au fond. Gratte la peinture et tu verras le sol. Gratte la peinture et tu verras le ciel. Gratte la peinture et tu verras le vide aride qui brille l'intérieur de ton vide. Alors je prends ma guitare
et ce soir je rentre tard, très très tard.
Ouais, mais peut-être pas si tard, là.
Thank you.
passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Nous sommes des oiseaux de passage, jamais dociles ni vraiment sages, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, Monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord. Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relan sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance, angoissant jusqu'à l'indécence. Sachons les tenir à distance pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance les instruments de leur démence. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Passer nos vies sur une grille d'accord.